Salut tout le monde. Alors, on a de la chance d'avoir les pré-ados qui sont avec nous. Il y en a deux qui sont partis rendre service à la crèche, un qui est là avec nous. Et donc, on a fait un petit plan. Si jamais vous venez d'arriver sur Grésy et puis vous aimeriez bien avoir un petit plan, demandez-moi et on fera le nécessaire. Mais j'avais envie de demander quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Alors, c'est un peu marqué générationnellement, dire quoi de neuf. Mais je suis sûr qu'on vous a tous posé un peu cette question en ce début d'année. Comment ça s'est passé, les vacances ? Et la rentrée ? Ça va ? T'as préparé des nouvelles activités ? Quoi de neuf ? T'as posé la question, Wesley ? Qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances ? Ouais. Et derrière, en fait, cette petite question se cache, je présume, en fait, la révélation d'un besoin quasi viscéral chez l'être humain, le besoin de nouveauté, le besoin existentiel de vivre, d'expérimenter, de connaître de nouvelles choses. Que ce soit la fuite en mode scrolling sur TikTok pour éteindre nos cerveaux, que ce soit les achats sur Amazon pour nous offrir le petit frisson, le visionnage en continu des chaînes d'information pour pouvoir gérer les paramètres de notre quotidien, oui ou non le chauffage cet hiver. Il y en a qui ont fait démarrer le sport là. Alors, vous avez fait quoi ? Running, trail ? C'est quoi cette année le sport qui va être à la une pour tout le monde ? Quelle est l'activité fun de l'année qui va nous ouvrir notre horizon mental, voire spirituel ? Ou alors, carrément, il y en a peut-être là qui sont à fond dans le phénomène de la van life. Vous connaissez van life ? Tu prends un van que tu aménages comme une petite maison et tu plaques tout et tu te casses pour vivre une expérience, franchement, truc de fou quoi. On a chacun nos petits trucs pour trouver la nouveauté, mais le problème avec cette soif de nouveauté, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ce désir de posséder quelque chose, de vivre quelque chose qui va enfin durer, qui va s'installer en nous, eh bien, en fait, ce besoin, il est insatiable. C'est une sorte de puits sans fond. Et je ne sais pas si vous lisez un peu les médias, mais en ce moment, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la grande démission. La grande démission, c'est quoi ? C'est que les gens, en fait, démissionnent de leur boulot de cadre sup, ingénieur spé pour démarrer une activité de permaculture ou d'élevage dans la Creuse ou en Lozère. Et ils plaquent tout, et en fait, il y a ce besoin de nouveauté. Il y a aussi le phénomène du « quiet quitting ». Vous avez déjà entendu cette expression, où les gens résignés restent au boulot, ils sont physiquement présents, mais l'envie n'est plus là. Ils sont en mode « compte-moi pas trop sur moi pour faire des heures sup », et « sache que moi, je réponds plus à mes emails après l'heure du boulot ». Quoi. On parle parfois d'un ennui généralisé. Oui, on rêve tous de nouveautés, mais au fond, on est saoulé, on est résigné. Alors, quitte à être résigné, autant le faire en scrollant à l'infini sur nos tablettes. Et c'est là que Jésus entre en scène. Dans notre série qu'on a intitulée « Voir Jésus, croire en lui et être transformé par lui », Jésus met un stop à cette recherche de nouveautés en nous offrant quoi ? Un signe. Alors pas l'oiseau, hein, mais un signe, un miracle qui pointe vers une réalité plus profonde. Et en fait, dans le texte qu'on va lire, qui se situe en Jean chapitre 2, que vous pouvez rechercher dans vos Bibles, pour ceux qui ont une Bible blanche comme celle-ci, Jean 2, c'est à la page 687. Jean 2, qu'on peut diviser en deux parties. Il y a d'abord des noces à Cana, et puis il y a ce nettoyage de temple. Et en fait, il est question aussi de nouveautés. Jean, il a délibérément mis ces deux références à ce lieu géographique de Cana pour créer en fait un bloc d'enseignement sur la nouveauté introduite par la venue de Jésus de Nazareth dans le monde. Où en Jean chapitre 1, verset 14, il avait été présenté comme la parole Dieu qui est venu habiter parmi les siens et nous avons vu sa gloire. Et en Jean chapitre 2, verset 11, après ce fameux premier miracle, on lit « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Maintenant, tournez juste simplement la page suivante au chapitre 4. Il faut aller un peu plus loin, à la page 690, pour voir au verset 46 que Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Une référence donc à ce premier 6 en Jean 2 qui ferme en fait cette section de Jean chapitre 2 à 4. Dans ce bloc d'enseignement, Jean nous introduit la nouveauté qui vient avec Jésus. Il est question de quoi ? D'un nouveau vin. Il est question d'un nouveau temple. En Jean 3, il est question d'une nouvelle naissance, de la nouveauté avec Jésus, de la vraie nouveauté qui surpasse toutes nos attentes. Le problème, c'est qu'il me semble qu'il y a deux objections qui se dressent dans notre esprit qu'on entend. T'entends, Jésus, c'est la vraie nouveauté qu'il te faut. Quoi de neuf ? Jésus. Attends, Jésus. Jésus, c'est pas synonyme d'un ennui mortel ? Jésus, fabricant de joie et de satisfaction. Attends, tu rêves. Aurélien, ça fait 3 minutes, les gens, ils t'écoutent plus, quoi. Réveille-toi. Oh ! L'ennui et la perte de concentration, ça c'est, me semble-t-il, les deux objections qui peuvent se dresser contre cette bonne et saine appréciation de la nouveauté que Jésus vient apporter. Et c'est précisément à ces deux objections que répond notre texte. Alors est-ce qu'on regarde ça ensemble ? On va lire ensemble Jean chapitre 2 et on va regarder ça de plus près. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 100 litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres !» Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils y en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « À tout homme sert d'abord le bon vin !» puis le moins bon après, qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, on lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Je vais prier. Notre Dieu, nous faisons face à beaucoup de beauté dans ce texte, mais aussi beaucoup de choses peut-être qui nous paraissent un peu mystérieuses. Je prie, Seigneur, que maintenant tu illumines nos cœurs par ton Esprit Saint, afin que nous puissions voir, que nous puissions sentir, que nous puissions expérimenter, que tu nous parles vraiment à nos cœurs et que tu cherches à continuer à entrer en relation avec nous. Amen. Premièrement, dans un monde qui offre de l'eau, Jésus offre du vin. Chapitre 2, versets 1 à 12. Le miracle de l'eau changé en vin. Alors, je me rappelle la première fois que j'ai vu mon pasteur danser en soirée. C'était lors de mon mariage et je n'avais jamais imaginé voir cet homme droit, juste, d'un grand sérieux, franchement que j'admirais, à s'amuser et rire autant à une soirée de mariage. Et c'est un peu l'effet que ça fait quand on imagine peut-être Jésus dans une fête de mariage. Jésus qu'on imagine un peu désincarné, un peu loin, en train de rire et de s'amuser lors d'une fête de noces. Jésus qui arrive, qui est sur la guest list avec sa mère, et c'est N plus 1, N plus 12 donc, ses disciples. Et Jésus rit à la célébration de ce mariage. Alors il faut juste savoir qu'à cette époque, un mariage, ça dure plusieurs jours. Il y a plusieurs temps dans ce mariage. Et la mère de Jésus, elle est probablement proche du marié, elle s'approche de Jésus à un moment critique. Ils n'ont plus de vin. Plus de vin égale end of the party. C'est la fin de la fête. Mais Marie, pourquoi va-t-elle vers Jésus? Quelle est cette attente de Marie concernant Jésus? Eh bien, la semaine dernière, Nicolas nous a introduit la personne de Jésus de Nazareth en nous montrant qu'il voit les personnes comme personne ne les voit. Il les connaît. Et le voir lui, ça nous donne envie de le faire connaître à d'autres. Et il a bien à des égards dignes de notre intérêt. Mais vous vous souvenez peut-être aussi que Jean a démarré son évangile avec ce fameux prologue qui démarre par un « au commencement ». Au commencement, qui fait une allusion au récit de la création en Genèse. Puis vous avez ces marqueurs temporels dans le texte que nous a lu et expliqué Nicolas la semaine dernière. Chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites. Puis verset 29, le lendemain. Verset 35, le lendemain. Verset 43, le lendemain. Et chapitre 2, verset 1, or le troisième jour. Alors faites le calcul avec moi. Si on est au jour 1, au verset 19, verset 29, ça correspond au jour 2. Verset 35 correspond au jour 3. Verset 43 correspond à jour 4, plus 3 jours qui nous font arriver à quoi ? Vous avez le bac en mathématiques. Au septième jour. Voyez le parallèle avec la semaine de création ici. Jean n'écrit pas les choses au hasard en fait. Il est en train de nous faire comprendre quelque chose concernant la venue de Jésus. Jésus inaugure une nouvelle création. Avec sa venue, c'est un recommencement. Quelque chose de nouveau est en train d'être créé. Une nouvelle création qui arrive au septième jour, qui est décrit comment ce septième jour, du coup ? Comme un mariage. Une belle noce. Une fête, une réjouissance, un festin glorieux et éternel. Ça, c'est la nouveauté que Jésus introduit. On aime tous les photos de mariage. Il y a les photos avec les parents, avec les frères et sœurs, les tontons Dédé, les tatas Simone. On aime les faire, on aime les regarder aussi. C'est tellement important que tu ne veux pas louper tes photos. Hein. C'est pour ça que tu fais appel à Noémie Fréchet Photographie ou à Candice Guizon Photographie, parce que là, tu veux vraiment être sûr que quand tu retrouves tes photos, tu as quelque chose de beau, qui te se souvient de ce souvenir impérissable, le moment où tu as dit oui. Le moment où que tu regardes les photos, ça ravive la flamme de ton cœur. Tu as les yeux qui s'humidifient, tu as l'eau à la bouche quand tu vois la pièce monter en photo. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de photos des noces de Cana. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y avait aussi un souvenir olfactif lié au mariage. Les gens de l'époque de Jésus connaissaient leur Ancien Testament. Et ça faisait écho dans leur cœur, qui leur fournissait une mémoire photographique de ce que Jésus est en train de faire en transformant de l'eau en vin. Écoutez le prophète Ésaïe qui dit « Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, de plein de moelle, de bon vin clarifié. » Écoutez maintenant le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruisselera des montagnes et coulera de toutes les collines. » À chaque fois, une référence, un déversement d'abondance de la présence de Dieu. Alors, est-ce que vous sentez les émotions ? Est-ce que vous avez les papilles qui commencent à vous titiller ? Est-ce que vous avez les yeux humides ? Ben ça, c'est l'effet que ça fait quand on voit Jésus qui transforme l'eau en vin. Les attentes des prophètes et de Marie, c'est ça. Dans notre quotidien ennuyeux, on nous sert de l'eau à longueur de journée. On attend le vin nouveau, comme les prophètes, comme Marie. Et par ce premier signe, par ce miracle de l'eau transformée en vin, dans des contenants remplis à ras-bord, Jésus attise notre souvenir olfactif et nous fait tourner le regard vers cette nouvelle création où il est là, il arrive, cette grande fête qui va durer, qui va être éternelle, est enfin démarrée avec sa venue. Ensuite, le vin est apporté au wedding planner. Comme quoi la Bible n'est pas obsolète. Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ce vin, c'est le meilleur du monde. C'est celui qui met un terme au débat sur l'ennui. Une fois qu'on y a goûté, en fait, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme les petits pots bébés. Alors je sais qu'il y en a peut-être parmi nous qui kiffent les petits pots bébés, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. On a tous mangé un petit peu les petits pots bébés quand on était bébé. Et puis un jour, on est arrivé à la nourriture de grands. Finalement, on a goûté à la gastronomie au point que aujourd'hui, plus personne n'a envie de revenir aux petits pots bébés. C'est tellement fade. C'est tellement bon cette nourriture, c'est un peu ce qu'on a ici. Le vin que Jésus est venu apporter, il met un terme au débat sur l'ennui et sur la satisfaction. Une fois qu'on y a goûté, c'est le meilleur. On ne peut plus s'en passer. On a quelque chose de complètement d'inouï et d'inédit dans ce texte. Quelque chose d'abondant, de succulent qui met un terme à l'ennui. Et la question qu'on se pose tous, finalement, c'est quand on vient y goûter, en fait. Comment on peut avoir cette nouveauté qui satisfait? Comment je peux participer à ce festin? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut qu'on puisse résoudre deux mystères. Deux mystères qui vont nous permettre de comprendre le comment. D'abord, une absence mystérieuse Et puis une phrase mystérieuse. D'abord une absence mystérieuse. Tous les commentaires que j'ai lus concernant les mariages de l'époque nous disent que la responsabilité d'un mariage repose sur les épaules d'un époux. Et donc, si le mariage va bien, on congratule l'époux, mais si ça tourne vinaigre, c'est la faute de l'époux. Or, que voit-on dans ce texte? Ou plutôt, qui ne voyons-nous pas? Bah, le marié. Le marié qui, où est-il? Peut-être en position fœtale dans les toilettes, en train de pleurer, il n'y a plus de vin. Sans la honte associée à ce fiasco. Mais il réapparaît juste à la fin pour recevoir bizarrement les éloges concernant ce vin. Et donc j'en reviens à ma première question. Pourquoi Marie va-t-elle titiller Jésus pour prendre la responsabilité du marié? La réponse, c'est que pour Marie, pour les prophètes de l'époque, Jésus, c'est lui le vrai époux. C'est lui l'époux ultime. On le voit dans l'Ancien Testament, plusieurs textes, mais on le voit aussi dans l'Évangile selon Matthieu, à la question qu'on pose à Jésus. « Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus dit « C'est parce qu'ils sont avec l'époux. C'est parce qu'ils sont avec moi. » Jésus est le vrai époux venu du ciel. Ça, c'est l'absence mystérieuse qui conduit à une question. Qui est l'époux? L'époux dans ce texte, c'est d'abord Jésus. Et vous avez vu aussi cette phrase mystérieuse. Que répond Jésus à la demande de Marie? Mon heure n'est pas venue. Alors l'heure, dans l'évangile de Jean, je dois vous le dire, c'est un terme un peu technique qui fait une référence à quelque chose de précis. L'heure, si vous regardez dans plusieurs références, en Jean 7, 3, en 8, 20, en 12, 23, en 13, 1, en 17, 1, vous verrez quoi? Que l'heure, c'est une référence à son élévation, qui n'est pas dans un premier temps sa résurrection, mais sa mort sur la croix, élevée, et sa résurrection. Et donc Jésus est en train de dire à Marie, ce que je vais faire maintenant, ce que tu vas voir maintenant, c'est parce que la chose ultime, je suis en train de faire une mise en scène, une parabole de ce que mon heure, quand elle va arriver, voilà ce qu'elle va produire. Et un jour ce sera son heure, sa mort va ouvrir une porte nouvelle vers un festin glorieux et éternel. Ces noces à Cana ne sont pas ses noces. C'est un signe qui nous plonge dans une réalité plus profonde. Jésus est l'époux ultime qui, à son heure, couvrira la honte du marié pour qu'en échange le marié puisse continuer, pour que le mariage puisse continuer et durer. Le marié, dans ce texte, il n'accomplit rien, et curieusement, il reçoit les éloges à la fin. Eh bien, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Sur la croix, à un moment, on voit Jésus qui est lié et qui est dans l'agonie. Et en fait, des soldats sont à ses pieds et ils lui mettent une éponge devant sa bouche. Une éponge qui est du vinaigre. Ah ben Jésus, à ce moment-là, avait le vinaigre en bouche, de la piquette, pour que nous ayons du vin clarifié, succulent et abondant dans notre bouche. Il couvre notre honte à tous et nous recevons ses mérites. Jésus inaugure une nouvelle création, c'est un temps de célébration. Par sa mort, il a transformé la médiocrité de nos nouveautés qui ont toutes le goût de l'eau en une nouveauté abondante, joyeuse et satisfaisante, du vin. Pas de la médiocrité fade, ennuyeuse. Pas des règles, des conventions sociales, évangéliques. Pas des principes et juste des valeurs. Mais une relation, une présence éternel, avec Dieu. c'est par cette foi dans ce qu'il fait lors de cette heure que nous pouvons faire cette expérience. Pourtant, des personnes qui sont chrétiennes depuis longtemps me confessent parfois qu'ils s'ennuient un peu dans leur vie spirituelle. Et c'est là qu'on en arrive à notre deuxième point. Dans un monde qui offre de la distraction, Jésus offre de la consécration. Et là, j'en viens à la purification du temple. Je vais aller beaucoup plus vite. Quelques jours plus tard, Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples pour fêter une autre célébration, la Pâque juive. Et Jésus entre dans le temple et chasse les vendeurs de bœufs, les brebis, les pigeons, ainsi que des changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors avant qu'on se fasse des idées sur les méthodes et la façon de faire de Jésus, il faut juste noter qu'il n'y a aucun signe de violence animale. L'usage d'un fouet en cuir, c'est normal, c'est le bruit notamment du claquement qui permet de convaincre les bêtes qu'il est temps de sortir. Essayer de faire ça à main nue, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces histoires d'animaux et d'échanges de monnaie dans ce temple ? Eh bien, ces animaux étaient un service pratique rendu aux adorateurs qui venaient dans le temple pour offrir un sacrifice. Et au départ, en fait, ces ventes d'animaux, elles avaient lieu sur les pentes du Cédron, à quelques kilomètres en dehors de Jérusalem. Donc, il fallait aller acheter sa bête et puis ensuite revenir au temple pour faire le sacrifice. Mais après, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus pratique et ergonomique si on faisait tout ça dans l'enceinte du temple. Mais c'est pas tout. On s'est dit ensuite, ce serait peut-être plus pratique si on pouvait en même temps payer l'impôt annuel du temple, en même temps qu'on va faire le sacrifice. Alors du coup, il y a des gens qui sont venus pour échanger les monnaies, pour prendre toutes les devises étrangères et les échanger dans la monnaie acceptable du temple. Et donc, dans ce temple, qui était un lieu de prière, voué à la consécration à Dieu, on peut imaginer maintenant le bruit, les échanges de monnaie, ça cliquetille, ça à droite et à gauche. C'est un lieu de distraction, de bruit assourdissant. Or, que fait Jésus, du coup, en chassant les animaux, en retournant les tables et les changeurs de monnaie ? Eh bien, Jésus, il fait du Marie Kondo. Vous connaissez Marie Kondo ? Le minimalisme. On enlève le surplus pour se focaliser sur l'essentiel. Jésus Marie Kondoïse le temple, qui n'est pas un verbe officiel. Jésus purifie le temple des sources de distraction, du bruit ambiant, de tout ce qui détourne l'attention. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Voilà le cœur de ce que Jésus est venu offrir dans sa nouveauté. Non des distractions, pas un aspect de plus à gérer dans ton espace, dans ta charge mentale qui est déjà bien chargée, mais une vraie consécration, une vie entière qui se donne à lui. Et pour enfoncer le clou de la nouveauté, avec Jésus, on entre donc dans cette nouvelle administration. C'est la fin du temple, de cet ancien moyen où on devait se rendre quelque part pour rencontrer Dieu. On le rencontre maintenant où ? À travers lui, à travers son corps, parce que la parole est venue habiter parmi nous. Il n'y a plus d'obstacle à la relation avec Dieu. C'est la fin des distractions, c'est la fin des choses qui remplissent notre vie et qui nous empêchent de rendre un culte à Dieu. Et donc Jésus, en venant clarifier, en venant purifier ce temple, il est en train de démontrer que, avec cette vraie nouveauté qu'il est en venant, c'est la fin du statu quo. Il va falloir faire du ménage parfois dans notre vie. Il va falloir qu'on puisse expérimenter cette vraie nouveauté qu'il est venu apporter dans la relation avec lui. Et c'est parfois douloureux, mais c'est toujours pour notre bien. Est-ce qu'il y a des sources de distraction dans ta vie qui t'empêchent de rendre un vrai culte à Dieu, d'aller vivre ce qu'il voulait qu'on vive dans la rencontre avec lui, dans son corps, dans le nouveau temple ? Est-ce que tu as accumulé des choses sur ton téléphone, dans ton emploi du temps, dans tes affaires, qui sont peut-être pratiques et ergonomiques, mais qui sont aussi du bruit, une source de distraction qui t'empêche de focaliser tes yeux sur cette nouvelle relation. Une chose à laquelle Jésus nous dit, eh bien, enlevez cela d'ici. Je résume. Qu'est-ce qu'on a vu ? Jésus est la nouveauté joyeuse et satisfaisante dont nous rêvons tous. Deux questions pour approfondir et terminer. Est-ce que, et là je rejoins l'introduction de Matthieu, est-ce que la venue de Jésus est une vraie nouvelle pour vous ? Est-ce que quand vous pensez à Jésus, maintenant, c'est encore une vraie nouveauté pour vous ? Ou est-ce qu'il y a une nouveauté qui vous fait plus envie que la nouveauté de Jésus ? Pour savoir, peut-être, remplissez avec moi le blanc suivant. Le matin, au réveil, mon premier réflexe, c'est... Merci. Je n'allais pas remplir comme ça, mais merci. De prendre mon portable, de chercher les news, de regarder sur WhatsApp qui a tenté de communiquer avec moi pendant la nuit. Est-ce qu'il y a autre chose que l'évangile qui est, d'après la Bible, la signification de évangile, c'est bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une autre nouvelle qui est devenue plus nouvelle que celle de Jésus ? De réaliser à nouveau qu'on est devenu ses enfants. De réaliser qu'on a une relation avec le Père. Une relation qui change notre quotidien. Alors qu'on était éternellement voué à être séparés de lui, il nous a réconciliés en Jésus-Christ, en prenant notre place sur la croix pour que nous puissions goûter à cette grande nouveauté, à ce festin succulent de vin clarifié d'abondance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on se dit, bon, ok, merci Aurélien. Ah là là, je savais que je ne vais pas venir. Ok, je vais faire des efforts. Je prendrai ma Bible le matin. Je vais prier, je vais suivre le conseil de la sœur qui est très juste. Je vais aller... ouais. Et toutes ces choses sont bonnes. Mais je crains que si la motivation, c'est la culpabilité, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer très longtemps. En fait, la seule chose qui peut nous aider à sortir de l'ennui, de la résignation, du désir de chercher des nouveautés pour s'évader d'un quotidien qui est parfois trop lourd, trop pénible, c'est la réalisation fraîche et nouvelle, jour après jour, que, avec Jésus, on a une vraie nouveauté qui vient mettre un terme final à tous nos ennuis. Son corps est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et tous les temps qu'on vit ensemble, les dimanches, le culte personnel, le matin, en fait, c'est le temps qu'on passe à regarder nos photos de mariage. C'est trop beau. En famille, ou seul, à nous souvenir, à nous rappeler, à nous laisser raviver dans nos émotions et à sentir tout au fond de nous, avoir la sensation olfactive. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux vraiment. Et qui pointe vers ces noces de l'époux, vers la fin des temps. Pourquoi on se préverait de tels moments ? Ça, c'est la première question. Est-ce que la venue de Jésus est une vraie nouvelle pour vous ? Et la deuxième, quelles sont les distractions que je devrais enlever dans ma vie pour ne pas perdre de vue l'essentiel ? Jésus est à un mariage et offre du vin nouveau, succulent. Est-ce que Jésus est nul ? Est-ce que Jésus est fade ? Non, la vie que Jésus est venu offrir, elle est éternelle et réjouissante. Mais en vrai, pourquoi on continue à croire que parfois c'est chiant ? Si, hein, je vous le dis honnête, hein, œil dans les yeux, hein, cœur à cœur. Pourquoi parfois on n'est pas si enthousiaste ? Ouais, Jésus, c'était bien. C'était bien cet été. Alors, des camps, il y avait les émotions, la parole, les gens. Et puis là, la rentrée, ça a démarré. Et puis, c'est devenu un peu fade. Ouais, Jésus, c'était vraiment bien lors de ce moment. J'ai vécu un truc de ouf, cet événement, ça m'a parlé pendant des mois. Mais là, je t'avoue, ma relation avec Dieu, c'est devenu un peu plan-plan, quoi. Pourquoi ça fait ça? Parce que des fois, on revient à de l'eau, alors qu'on nous a offert du vin. Alors, est-ce que je peux vous demander si votre vie, elle n'est pas trop remplie au point d'avoir perdu l'essentiel? Prier, communier, expérimenter la présence de Dieu, est-ce que c'est devenu une charge mentale, devenue trop lourde pour vous? Ou est-ce que c'est un privilège inouï dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses qui font écho avec vous quand Jésus dit « Enlevez ça d'ici ». Eh bien, Jésus est la vraie nouveauté. Et la question qu'il nous pose à tous, comme c'était l'époque de Jean, est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment que Jésus est la vraie nouveauté dont nous rêvons tous et qui surpasse toutes les autres ?